Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Ce sont des êtres hybrides, grotesques et familiers. Individus déformés par les contradictions de l'époque, la perte du langage, l'hyper-ego, le conformisme, l'idéologie ou le narcissisme médiatique. On rit souvent jaune en les découvrant parce que ces figures nous ressemblent. Car ce bestiaire agit comme un miroir déformant, mais terriblement fidèle. Mais qui sont ces êtres mystérieux? Si vous voulez tout savoir à leur sujet, restez à l'écoute. Bruno Lafourcade, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les Hyènes, H-Y-A-I-N-E-S », paru aux éditions La Mouette de Minerve, nous dit tout sur un monde hybride pas si éloigné de nous. Bonjour Bruno Lafourcade.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Parole d'auteur. Je salue nos fidèles auditeurs et je leur précise dès maintenant qu'ils pourront retrouver cette émission sur notre site ainsi qu'en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Bruno Lafourcade, première question. L'exaspération est une vérité à bout de nerfs, c'est bien vrai ça ?
Ah, c'est en tout cas une phrase que j'ai mise en exergue, en effet. Et quelquefois, je me dis que si quelque chose m'exaspère, c'est qu'il y a un fond de vérité qui la justifie. Voilà.
Et est-ce qu'on peut dire que finalement, l'exaspération, c'est quelque chose qui vous inspire ?
Ah oui, absolument, absolument. L'exaspération, c'est pas un genre littéraire, mais ça peut le devenir si elle est bien, j'écris un livre exaspéré. En effet.
Alors, est-ce qu'on peut dire peut-être que vous en avez déjà écrit plusieurs de livres derrière lesquels il y a un sentiment d'exaspération ?
Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a eu notamment La littérature à balles réelles, qui était un dictionnaire des écrivains d'aujourd'hui, où j'étais effectivement exaspéré par les succès de certains de mes confrères. Les succès, pas forcément commerciaux, mais bon, les invitations, les choses comme ça.
On va y revenir en détail.
Bon, très bien.
Alors, j'ai regardé un peu de près votre biographie et donc je me posais la question si aujourd'hui nous allions accueillir le romancier, l'essayiste, le chroniqueur, voire le polémiste ou encore le moraliste ou pourquoi pas l'entomologiste social. Alors, qui êtes-vous ?
Je suis un peu tout ça, tout dépend des livres dont on parle, mais en réalité, quand on écrit, on a plusieurs... corde à son arc et plusieurs sentiments au cours d'une même journée. On n'est pas tout le temps joyeux, on n'est pas tout le temps en colère, donc ça donne aussi des états d'esprit différents et ça donne aussi des livres différents.
Et alors ces livres différents, en fonction de cette exaspération qui est très largement liée à la satire, il y a un genre qui est attaché à l'exaspération, plutôt le roman ou plutôt...
Non, je dirais, elle peut intervenir n'importe quand, ça peut exploser n'importe quand. Mais bon, ce que je mets au-dessus de tout dans les genres littéraires, c'est le roman qui n'est pas fait pour être un... Ce n'est pas un pamphlet, un roman. Ça se veut un écrit plus réaliste si on écrit des romans réalistes. Pour moi, l'exaspération, elle est surtout dans les pamphlets ou dans les livres polémiques ou dans les satires. Voilà.
Et qu'est-ce qui est le plus difficile à écrire, un roman ou une satire ?
Un roman est beaucoup plus difficile, ça demande une attention, une concentration, surtout si c'est un roman épais. J'en ai écrit qui n'étaient pas longs, des romans brefs, là ça peut être écrit dans une seule coulée, mais il y a des romans plus épais qui demandent évidemment beaucoup plus de travail, beaucoup plus de concentration, surtout il faut être sûr d'avoir plusieurs mois devant soi et ne faire que ça. Parce que sinon, le pamphlet, ça peut être plus bref, c'est une gifle, si vous voulez. C'est pas un combat de boxe, c'est une gifle.
Et alors, pour les romans, quand vous dites il faut ne faire que ça, ça veut dire qu'un jour, vous décidez, je commence un roman,
oui.
Et vous lâchez plus. Et
généralement, il ne faudrait pas que ça s'arrête. Évidemment, quelquefois, il y a le travail, il y a d'autres livres en tête que l'on doit terminer. Mais généralement, je m'efforce de ne faire que ça. Pendant un certain laps de temps, oui.
Alors, au niveau de votre œuvre et des ouvrages que vous avez déjà publiés, donc on a parlé de romans. J'avais noté un roman qui s'appelle Le tombeau de Raoul Ducournau.
Oui.
Livret, que vous
Livret,
aviez,
ouais.
que vous aviez publié précédemment, Les Cosaques et le Saint-Esprit, la littérature à balles réelles que vous avez citée, sur laquelle je souhaiterais que nous revenions, et enfin donc Les Hyènes, H-Y-A-I-N-E, qui est, lui, un beau modèle de pamphlet, de satire sur la société contemporaine.
Oui, et sur les principales, selon moi, figures de la... de hybride, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la société contemporaine, ouais, c'est-à-dire des figures tout à fait modernes, tout à fait nouvelles.
Comment vous qualifieriez vos sujets de prédilection, tous genres confondus ?
Pour moi, je suis un auteur réaliste, c'est-à-dire que je regarde la société et je réagis à ce que je vois. Ça peut être une réaction tout à fait plaisante, ça peut être une réaction vigoureuse, mais généralement, je me considère comme un auteur réaliste. Oui.
Voilà. Alors, si nous pouvions revenir à la littérature à balles réelles. Alors, vous savez, parole d'auteur, nous aimons les auteurs, nous aimons la littérature, et on est curieux des différentes formes de littérature. Et on reçoit donc beaucoup d'écrivains, des écrivains qui abordent à peu près tous les sujets et sur tous les genres. Et là, cet ouvrage, La littérature à balles réelles, là, vous donnez l'impression que vous avez pris la Kalachnikov et que vous avez tiré à vue.
En réalité,
qu'est-ce qui s'est passé ?
En réalité, c'est un petit dictionnaire dans lequel il y a un tiers des écrivains que j'admire beaucoup. Et c'est un éloge de certains écrivains. Mais il y en a certains que je trouve exaspérants, donc je le dis. Et peu importe d'ailleurs dans le genre dans lequel ils écrivent, ça peut être des romanciers, ça peut être des essayistes, ça peut être des polémistes, ça peut être des auteurs dramatiques. Non, je n'ai pas je ne fais pas de discrimination en fonction du genre en tout cas.
Et alors le jugement que vous formulez sur ces auteurs, c'est un jugement qui se fait à partir des écrits, dans la manière dont c'est écrit, ou plutôt à partir des idées qui sont véhiculées, qui sont portées?
Généralement, ça se rejoint. Mais moi, mon point de vue, c'est d'abord des questions de style. Je ne supporte pas qu'un écrivain fasse des fautes de français, par exemple, et que personne ne soit là pour le remarquer. Mais des fautes grossières de français, je me dis que si un carreleur fait mal son travail, on va lui reprocher. Je ne vois pas pourquoi on ne reprocherait pas à un écrivain d'écrire avec des pléonasmes ou de faire des grossières erreurs de français. Bon, ça commence par là. Et généralement, celui qui fait des fautes de français, il a aussi de mauvaises idées. C'est-à-dire, enfin, de mauvaises idées. Il n'y a pas de mauvaises idées, mais disons que ça l'entraîne vers une certaine fausseté dans le jugement. Voilà, c'est ce que je me dis. Et quelquefois, ça se vérifie.
Alors, en vous entendant parler des fautes de français, qu'est-ce que vous pensez, parce que c'est quelque chose qui nous arrive fréquemment à parole d'auteur, de rencontrer, pendant la lecture, des coquilles où on s'aperçoit, enfin, on pense que probablement il y a eu une absence totale de relecture. Et ça, je saute sur l'occasion pour vous en parler parce que c'est quelque chose de très récurrent.
Et je me rappelle d'avoir lu un livre qui était d'un éditeur, publié aux éditions Fayard, et qui contenait 4 ou 5 fautes par page. C'est-à-dire que là, c'est vraiment dans la maison même que se produise le crime, quoi, en quelque sorte, que se produit le crime. Que l'on fasse des fautes de français à l'oral, c'est tout à fait normal. On commet tous ce genre de fautes quand on s'exprime, comme je le fais maintenant. J'ai dû en faire beaucoup depuis que j'ai commencé à parler. Mais à l'écrit, on est supposé connaître son métier. Et un métier, c'est d'abord savoir comment fonctionne la langue française, de quoi elle est constituée, qu'est-ce que c'est la syntaxe et pourquoi ça fonctionne comme ça et pas autrement. Ça fait partie du métier. Bon, c'est purement professionnel à la rigueur. Bon. Et en plus, si ça devient une esthétique, si l'art d'écrire est aussi une esthétique, c'est parce qu'on maîtrise assez bien le français pour en jouer. Vous voyez, un satiriste, par exemple, s'il ne maîtrise pas les codes de l'antiphrase, il ne sait pas écrire. Voilà.
Alors, pour revenir donc à votre livre « La littérature à balles réelles », j'ai capé une petite citation de vous-même pour qualifier vos motivations pour écrire ce livre. Ça m'a amusé et je la lis. La jalousie m'a dicté ces pages. Il n'y a pas que de l'aigreur en moi, il y a aussi du fanatisme. De quel fanatisme s'agit-il ?
Ah, le fanatisme de l'erreur de la faute de français, par exemple. Alors évidemment, cette phrase est ironique, parce que je me sens pas spécialement aigri. C'est pas du tout mon tempérament, mais ça pourrait l'être. Et surtout, j'ai voulu dire que il ne fallait pas s'attendre à de la complaisance de ma part. Voilà. Même certains des amis qui sont dans ce livre ont parfois été mécontents de la façon dont je parlais d'eux, parce que je ne faisais pas un éloge assez dithyrambique, mais l'amitié se fait aussi de choses que l'on pense vraies, et elles peuvent être désagréables à entendre, ou moins agréables qu'on le croirait.
Et ils ne se sont pas vengés dans leurs écrits suivants ?
Non, non, parce qu'ils savent qu'ensuite je peux me revenger, et ça peut être interminable.
Voilà. Alors... j'ai cru comprendre que vous étiez très critique au sujet de ce qu'on pourrait appeler l'autofiction spectaculaire.
Excusez-moi de vous interrompre. Je précise, parce que sinon les auditeurs vont croire que je suis un fanatique vraiment. C'est que je suis toujours dans mes livres, et particulièrement dans la littérature à réel, capable de pratiquer l'autodérision. Et dans la littérature à réel, puisque c'est un dictionnaire, il y a aussi Bruno Lafourcade, dans lequel je suis le plus méchant parmi tous les... Enfin, je suis l'auteur du portrait qui me vise, et qui est le portrait le plus redoutable de tout le dictionnaire. Hein. Voilà. Et c'est aussi le cas dans Les Hyènes, d'ailleurs.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre image, parce que on va revenir.
Je tiens beaucoup à mon image.
On va revenir sur ce sujet-là quand on va parler du livre Les Hyènes. Oui, donc, vous, il y a des choses qui vous agacent. C'est vous refusez la confession comme valeur littéraire. Vous dites que la violence biographique n'est pas en soi un critère littéraire.
J'aime tous les genres littéraires, j'aime notamment l'autobiographie, j'aime la confession, j'aime beaucoup l'autofiction, mais il se trouve que l'autofiction est devenue un genre presque caricatural depuis 20 ans à peu près. C'est devenu une tarte à la crème, et maintenant dès qu'on a un ongle cassé, ça y est, on en fait 300 pages publiées aux éditions Stock. Non, c'est insupportable. Il y a de vrais malheurs dans la vie. Ça peut donner de très beaux livres. Je me rappelle d'avoir lu Mars de Fritz Horn, qui est un magnifique livre sur la maladie. Mais tout le monde n'est pas capable. Tout le monde n'est pas écrivain. Tout le monde n'est pas capable de faire de son malheur quelque chose d'esthétique. C'est-à-dire, il y a une esthétique aussi du malheur. Que ça prenne le tour de l'autofiction ou du roman ou de la polémique, ça n'a pas d'importance. J'aime tous les genres, notamment l'autofiction, mais je trouve qu'on en fait beaucoup trop dans ce genre-là. Je trouve qu'on publie trop d'autofiction qui n'ont rien à dire. Voilà.
Et quels sont les critères de l'esthétique dans l'autofiction ?
C'est-à-dire qu'il ne faut pas de complaisance, je trouve. Il faudrait qu'il n'y ait le moins de complaisance possible. Il faudrait qu'il y ait une vérité dans dans la situation qui est décrite. Mais ça, c'est très difficile à décrire parce que y a une vérité dans certains écrits autobiographiques qui n'existent pas ailleurs. Il y a des correspondances dans lesquelles on sent vivre l'auteur beaucoup plus que dans un roman, par exemple. C'est un critère. Et puis, il y a le fait qu'il y a la tenue, il y a la retenue. C'est un critère esthétique aussi. On ne se complaît pas, non. Si on parle d'une maladie, ce n'est pas pour fabriquer des plaignants, si vous voulez. C'est fait pour livrer un témoignage soit utile, soit esthétique.
Ça signifie qu'il est nécessaire de garder une certaine distance, une certaine pudeur aussi.
Il me semble que la littérature a à voir avec la pudeur. Et qu'on n'est pas obligé de se complaire dans l'étalage du soi, du moi. C'est assez audiovisuel, en fait. Il y a une littérature aujourd'hui, on a l'impression de voir de la télé-réalité. Et c'est un penchant qui est né peut-être de la télévision, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est surtout celle-là que l'on met en valeur, j'ai l'impression.
Et vous parlez... aussi de cette littérature trop abondante sur le phénomène du développement personnel qui est un petit peu lié à ça.
Oui, mais je comprends très bien qu'on puisse d'abord aimer l'autofiction, d'ailleurs je l'aime moi aussi, et je comprends très bien qu'on cherche des témoignages, et je comprends très bien aussi qu'on aime, que l'on recherche dans les livres de développement de développement personnel, une sorte de confiance en soi que l'on a perdue. Et je comprends très bien, mais je pense que c'est une mauvaise. Je pense qu'il y a beaucoup de charlatans et qui utilisent et qui commercialisent le malheur des gens, le malheur psychologique parfois, le mal-être, pour vendre des livres ou pour vendre des formations, pour vendre des cours. Et je trouve qu'on abuse beaucoup de la bonne volonté des gens. Oui.
Et on voit beaucoup de parutions sur ces sujets.
Énormément, énormément.
Ça veut dire que quelque part, les éditeurs avalisent, mais ça veut dire peut-être aussi en premier lieu qu'il y a une demande.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je disais, je comprends très bien les gens qui en ont besoin. Est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que les gens qui lisent ce genre de livre en éprouvent une satisfaction? Peut-être, hein. Et peut-être que de ce point de vue-là, c'est utile. Et peut-être que c'est moi qui me trompe complètement, hein. C'est tout à fait possible. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Mais en tout cas, je sais qu'à titre personnel, je sens trop qu'il y a souvent du charlatanisme derrière ces livres-là.
Voilà, et que finalement, que ce n'est pas crédible.
Je pense que c'est surtout du vide et une sorte de... enveloppé dans un vocabulaire New Age un peu creux. Voilà.
D'accord. Alors Bruno Lafourcade, on va le revoir en détail quand on va parler des hyènes, mais vous êtes un auteur qui maîtrisait le sens de la formule. Et donc je voudrais en faire profiter les auditeurs.
Aïe.
sur le sujet que nous venons d'aborder, vous écrivez « Le jeu n'est pas un gage de vérité, c'est une facilité qui n'est pas travaillée ». C'est exactement ce que vous venez de dire. Et une autre qui est savoureuse aussi, « La littérature n'est pas un stand de tir, c'est un art du regard ». Vous pourriez préciser votre pensée?
Je crois que la plus grande qualité de l'écrivain, c'est le don d'observation. Et le don d'observation, ce n'est pas juger les gens pour en dire du mal. C'est simplement décrire le monde contemporain à travers tous ceux que l'on observe, les êtres, les situations, les événements. Je ne vois pas, je ne perçois pas tel événement comme mon voisin. Quelle est la part de mensonge ou de vérité dans ce que l'on voit? Bon, ça fait partie du don d'observation. Je pense que c'est une des qualités principales de l'écrivain.
Et quand vous parlez d'observation, est-ce que ça veut dire que l'écrivain doit se limiter à la narration des choses, la narration des faits, sans prendre parti?
Ah, certains le font très bien, oui. Ça peut être un biais romanesque, par exemple. L'absence de jugement, la seule observation, effectivement, c'est presque une catégorie romanesque. À titre personnel, j'interviens souvent en réalité. Enfin, en tout cas, mes narrateurs interviennent souvent. Et souvent, il y a un peu de moi dans les narrateurs. Donc, l'observation, ce n'est pas exempt du jugement chez moi. C'est pratiquement jamais, en réalité.
Bruno Lafourcade, je vous propose la première pause musicale.
We'll be right back.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Bruno Lafourcade pour son ouvrage Les Hyènes, paru aux éditions La Mouette de Minerve. Bruno Lafourcade, que venons-nous d'entendre ?
On vient d'entendre un air qui me met toujours en joie le matin quand je le mets, c'est la marche de Radetzky qui est jouée souvent pendant les fêtes. Et là, c'était, j'imagine, Barenboim à Vienne.
Exactement.
Et je trouve que c'est un morceau congru pour ce que nous allons parler. C'est-à-dire que là, c'est une marche et c'est on imagine un défilé de personnages sous les applaudissements du public, bien entendu. Un défilé de personnages plus ou moins baroque, ce qui n'est pas du tout la volonté du compositeur de la marche de Radetzky, évidemment.
Et donc, ça pourrait être une partie de la bande-son du livre.
Ah oui, j'adorerais que ce livre devenait un film, j'aimerais beaucoup que ce soit la bande-son, oui. Et puis c'est aussi un petit peu en pensant à Joseph Ross qui avait écrit ce fameux livre, La marche de Radetzky, et que j'ai beaucoup d'admiration pour Joseph Ross, donc voilà, c'est aussi un clin d'œil.
D'accord. Alors, Les Hyènes, H-Y-A-I-N-E-S. D'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer, et surtout expliquer aux auditeurs, parce que finalement, c'est plus facile à capter quand on lit que quand on entend.
Alors, les hyènes, c'est un néologisme qui est créé à partir du mot hyène, et, c'est-à-dire l'animal, et la haine, le sentiment. Parce que, et donc, je les ai réunis pour créer un néologisme. En réalité, c'est un néologisme qui désigne, pour moi, des êtres hybrides, puisque l'hybridité est une façon de fabriquer des néologismes, de mots valises. Je trouve que notre société a fait naître un certain nombre de créatures hybrides, notamment les hyènes, de créatures qui sont composées de deux éléments qui ne se retrouvaient pas jusqu'ici. Et pour donner un exemple, on va en voir certainement
oui,
quelques-uns.
On va les voir presque en détail.
Mais il me semble que j'ai inventé l'albatros, c'est-à-dire l'albatros et atroce. L'albatros, c'est le mauvais poète, par exemple. L'albatros en référence à l'albatros de Baudelaire. Et le poète boursouflé. Bon, voilà. Voilà un exemple.
Alors, vous venez de dire tout de suite que, donc, on a bien compris, ce sont des personnages hybrides, c'est deux facettes d'un personnage qui en forment un troisième,
oui.
Ils sont caractéristiques de notre époque contemporaine, mais est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau? Est-ce qu'il n'y avait pas des hybrides dans le passé?
En réalité, il y en a certainement eu, bien entendu, mais il me semble que l'hybridité d'aujourd'hui, elle est encore plus spectaculaire, parce qu'elle mêle des éléments qui sont vraiment très différents l'un de l'autre. Ensuite, l'hybridité, c'est vieux comme... tous les jardiniers ont pratiqué l'hybridité. Mais je trouve que dans la société, avoir des personnages hybrides qui se multiplient, ça, c'est peut-être nouveau.
Et est-ce que derrière, on peut imaginez un message que, finalement, par l'hybridation, on crée de nouveaux personnages, on crée de nouveaux hommes.
Exactement, on crée de nouveaux êtres à partir d'éléments différents. C'est le principe de l'hybridité et c'est ce que je veux dire par les hyènes, c'est-à-dire des êtres nouveaux, des êtres qui n'existaient pas avant, qui sont le fruit d'une hybridité presque morale.
Et alors, quand on lit l'ensemble des portraits que vous faites, on constate que ce sont des personnages nouveaux, mais on se demande si cette nouveauté est destinée à s'inscrire dans la durée. On est un peu effrayé, quand même.
Oui, le but, c'est quand même un bal des horreurs, bien sûr. Et alors, je précise encore une fois que la hyène du titre, c'est moi, c'est l'auteur. J'estime que je fais partie du bal des monstres, hein. Voilà, pour que personne ne m'insulte.
Bon, et j'en rajoute un peu à destination des auditeurs, et nous verrons en fin d'émission, de manière très précise, l'autoportrait, en quelque sorte, que vous faites de vous-même. Alors, ces textes, il y en a une quarantaine.
Une quarantaine.
Alors, comment on les qualifie? Ce sont des portraits, des chroniques, des contes?
Il y a un peu de tout. Il y a des nouvelles, des contes, où j'ai mis en scène ces individus. Mais il y a aussi des chroniques ou des petits essais pour présenter théoriquement l'hybride en question. Mais généralement, on peut considérer que ce sont des contes. On peut les lire comme des contes. Voilà.
Oui, c'est des petits contes. Et à partir de cette constatation, on se dit... On a envie de faire le rapprochement avec soit les caractères de la Bruyère, soit les fables de La Fontaine, un petit peu.
Il y a un peu un côté fabuliste, effectivement. J'ai pensé aux fables de La Fontaine, en effet. Quelqu'un m'a dit aussi, effectivement, ça lui faisait penser à certains portraits de la Bruyère. Mais enfin, la Bruyère, pour moi, c'est le grand maître. Hein, donc, bon.
Oui, mais enfin, ne serait-ce que dans l'esprit.
Mais c'est dans l'esprit. Et un mélange, vous avez raison, un mélange hybride de La Fontaine et de la Bruyère, oui, en
et
effet.
On pourrait d'ailleurs y rajouter de la Rochefoucauld.
La Rochefoucauld, pour le type de sentence qu'il y a parfois, le type de comme l'exaspération que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a un peu du moraliste qui perce en moi, oui.
Alors, je vous propose de rentrer un petit peu dans le détail pour donner oui. une idée précise à nos auditeurs. Donc, une suite de portraits, de petits contes, de petites nouvelles même, mm-hmm. hein, on peut dire.
Oui, oui.
Alors, le premier, c'est le premier que vous avez écrit, mais c'est le premier qui a attiré toute mon attention parce que ça m'a rappelé des souvenirs de vie professionnelle.
L'englobé.
C'est l'englobé. Alors l'englobé, ça s'écrit A-N-G-L-O-B. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce qu'est l'englobé ?
Alors, l'englobé, c'est celui qui s'exprime en globish, c'est-à-dire en mauvais anglais, qui n'est ni du français ni de l'anglais, et qui occupe souvent un emploi dans le tertiaire. Et c'est cet individu que l'on croise dans les couloirs avec une oreillette et qui a l'air de parler tout seul et qui parle... flux, onboarding, enfin, il y a toute une variété de mots qui ne sont ni anglais ni français en réalité. C'est juste une apparence, c'est juste pour qu'on le situe, lui, dans les hautes sphères, parce que généralement c'est un cadre supérieur, et il occupe un emploi dans le tertiaire, dans lequel il doit avoir une sorte il doit faire comprendre qu'il est au-dessus des autres. Donc il utilise un langage ridicule, mais qui le font admettre parmi les puissants.
Alors, pour le plaisir de nos auditeurs et pour notre propre plaisir à nous, je me propose de lire un petit extrait au sujet de l'englobé. Alors ça commence comme ça. « T'es free pour ton onboarding ?» Non. Check tes mails, je t'ai forward le brainstorm. Il n'est pas anglophone, anglophile, anglomane, il est englobé. Il parle le globish des gestionnaires d'actifs. Sa profession est un mystère. La porte de son bureau affirme qu'il est strategy manager RD, mais ça ne nous avance guère. On sait seulement, comme le corbeau croasse et le chameau blatère, que l'englobé brief.
Voilà.
Tout est dit.
Leur grand mot, c'est ça, c'est le briefing, c'est briefer, voilà, tu viens au brief, on se brief, voilà.
C'est aussi, on pourrait considérer que ça illustre un signe de reconnaissance.
Voilà, c'est ça. Il veut être reconnu comme étant un cadre supérieur et ils se parlent entre eux comme ça, hein. Alors que ce qu'ils ont à dire est très simple et pourrait très bien s'exprimer en bon français. Aucun problème.
Voilà. On a presque l'impression que c'est une épidémie. Hein.
Oui, et puis c'est un snobisme aussi. C'est une forme de snobisme. Ouais.
Alors, il y a dans un autre domaine, il y a ce que vous appelez les enjôleurs.
Oui, les enjôleurs, ce sont ceux qui vous enferment dans une geôle, d'une prison. Qui est une prison, on évoquait le développement personnel tout à l'heure, ceux qui ont le discours qui séduisant pour que vous alliez mieux, pour qui séduisent les gens qui sont dans des difficultés de vie personnelle et qui sont extrêmement dangereux, je trouve, parce qu'ils vous enferment, ils vous englobent comme l'englobé, mais ils vous enjolivent. Ce sont des enjoliveurs, en quelque sorte.
Et ce sont des gens qui prétendent apporter une solution existentielle.
Voilà,
finalement.
C'est ça, exactement. Alors, c'est une sorte de sous-bouddhisme, vous voyez, c'est une sorte de... Ça se veut... c'est très flou, mais c'est un peu d'humanisme, un peu de... Et évidemment, ils vont vous apporter le bonheur. Tout ce qu'ils visent, c'est le bonheur. Comme si le bonheur passait par des formules magiques d'apaisement de soi, ce genre de choses.
C'est peut-être aussi une déclinaison de tout ce qu'on avait on a pu qualifier de développement personnel.
Mais c'est un peu ça, oui, c'est ça, avec une espèce de vocabulaire New Age.
Alors, au sujet des enjôleurs, vous écrivez « Tous ces types t'enrobent dans le discours qui te font croire que la vie, c'est d'apprendre à être heureux. »
Oui, et Monterland disait que le bonheur est une affaire de concierge. Bon, évidemment, c'est Monterland, un aristocrate, qui parle. Pour lui, le concierge, c'est vraiment la lie d'humanité. Ce n'est pas mon cas. Mais je veux dire que le bonheur n'était pas autrefois une préoccupation des gens ordinaires. La préoccupation des gens ordinaires, c'était de vivre, d'élever ses enfants, de les élever le mieux possible. Ils n'avaient pas comme aspiration d'aller mieux ou de je ne sais quoi. C'est tout à fait récent, ça. C'est une mode aussi, qui passera comme passent toutes les modes.
Bien. En attendant d'examiner la mode suivante, je vous propose à nouveau une pause.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, Luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous poursuivons notre entretien avec Bruno Lafourcade au sujet de son ouvrage Les Hyènes, paru aux éditions La Mouette de Minerve. Donc nous venons d'entendre, si je peux me permettre, une autre musique de défilé, parce qu'il s'agit d'une galerie de personnages. Ouais. Que je vous laisse présenter.
Ah, d'abord, j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle est extrêmement bien écrite, elle est très visuelle, et j'aime beaucoup les deux derniers vers, l'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi, Champagne, donc c'est la chanson Champagne de Jacques Higelin, et c'est une galerie très visuelle, très imagée de tout un tas de monstres que imagine le parolier défilant devant lui des êtres hybrides, là encore une fois. Alors je trouve que c'est une très bonne illustration de ce livre. Voilà.
Alors dans un autre domaine, poursuivons notre cheminement dans le bestiaire. Vous parlez, en page 109, exactement de ce que vous appelez le géniard. Alors géniard.
Ah, le géniard, c'est l'enfant à qui on a promis qu'il était un artiste, qui s'est réveillé un matin en faisant des griffonnages. Ses parents sont en extase devant lui et s'imaginent que c'est le nouveau Picasso. Et alors on lui passe tout, on lui cède tout. Donc c'est un petit capricieux. Autrefois, on lui donnait un coup de pied aux fesses, mais évidemment, on n'a plus le droit. Alors donc là, c'est le type qui va mal vieillir, parce qu'en plus, on ne lui aura jamais rien refusé. Il continuera de se prendre pour un génie, mais il ne sera jamais qu'un géniard. C'est-à-dire qu'il utilisera l'art pour se plaindre.
Et vous résumez la situation de ces gens-là en disant « le QI baisse, mais les génies se multiplient ».
Mais oui, le QI baisse, mais ça n'empêche pas les gens de se prendre tous pour des génies. Or, les gens sont, il y a plus souvent des hommes ordinaires que des génies, bien entendu.
Alors donc, vous passez en revue beaucoup de caractères. Des fois, on pourrait qualifier ces caractères de corporation aussi. Et notamment, vous parlez des philosophes. Qui sont-ils ?
Le philosophe, c'est celui qui se prétend philosophe alors qu'il ne fait qu'énumérer des banalités. Alors ce sont souvent des philosophes de plateau télé ou d'émissions de radio. Et ce sont des filous parce qu'ils vous embobinent. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la vraie philosophie. Mais ils passent... On les sollicite quand on est à la télé parce qu'au moins, ils donnent une caution intellectuelle. Bon, mais ils ne sont pas plus des philosophes que je ne suis danseur étoile.
Hein. Alors là, vous êtes très sévère, vous dites « faux philosophe médiatique, spécialiste de tout, expert de rien, il simplifie abusivement les sujets complexes, distribue des opinions rapides et se met en scène comme conscience morale ou intellectuelle ».
Ah, souvent, ce sont des consciences morales. Ouais. Ils nous disent ce qui est bien, ce qui est mal et ils utilisent des arguments tout à fait démagogiques souvent.
Alors, tout ne se passe pas dans la vie réelle, finalement. Cette hybridation, elle peut sévir dans le monde virtuel. Et vous avez dressé un portrait d'un personnage qui s'appelle Lancelot du Like.
Lancelot du Like, et non du Lac, c'est le... Pour ceux qui connaissent les réseaux sociaux, qui par exemple Facebook, bah, c'est celui qui agit sous pseudonyme, qui envoie des insultes... sous un pseudonyme qui peut être par exemple Lancelot, enfin des pseudonymes virils et des pseudonymes qui mettent en scène l'héroïsme, tout ça pour se complaire à écrire des chapelets d'injures bien protégés derrière son pseudonyme. Alors ça pour moi c'est vraiment rédhibitoire, c'est-à-dire c'est le comble de la lâcheté d'une part et d'autre part c'est le comble de la politesse évidemment. Et alors dès qu'il dans ma nouvelle il tombe sur plus fort que lui, donc les auditeurs s'ils lisent ce livre découvriront comment quelqu'un arrive à pousser Lancelot du Lac dans ses derniers retranchements.
Alors plus généralement, vous dénoncez ce qui se passe sur les réseaux sociaux et vous avez créé un... Alors on ne peut même pas dire un compte parce qu'on est assez proche de la réalité. Une page qui s'appelle Réseau, R-E-Z-O-O-W, comme le zoo.
Voilà, c'est le zoo des réseaux sociaux. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, s'agit tout un petit monde d'animaux plus ou moins sympathiques. Qui grenouille là-dedans, c'est une mare aux grenouilles qui est souvent tout à fait déplaisante. Ils sont un certain nombre, là. Je ne sais plus combien j'en ai mis 5 ou 6 à l'intérieur du réseau.
Et alors vous parlez du tueur, de la mère, du pervers et de la poissarde et de la poétesse.
Ah, la poétesse, elle revient plusieurs fois sous différentes formes, c'est ma préférée. C'est celle qui se prend pour... Charles Baudelaire, mais malheureusement, elle a plutôt les moyens littéraires très limités, voilà.
Et vous leur faites dire, enfin, vous constatez que s'ils sont là, c'est peut-être pas tellement par hasard, en disant les néo-monstres font parader leur névrose.
Ah oui, ce sont souvent des gens névrosés, qui utilisent leur névrose d'abord pour la présenter comme si c'était pour présenter leur névrose comme si c'était une qualité et ensuite ils s'en servent pour insulter, pour un peu comme Lancelot du Like ou pour réduire les autres, pour les humilier. Il y a beaucoup ça dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et c'est tout à fait déplaisant. C'est un petit bac à requins, quoi. Voilà.
Bon, alors c'est quelque chose effectivement qui est très bien décrit dans le réseau. Donc il y a beaucoup d'autres personnages, beaucoup d'autres petites nouvelles ou contes. Et finalement, donc, vous vous êtes installé dans cette, dans ce genre de satire, où finalement vous montrez des comportements, vous mettez en exergue des contradictions, mais finalement, pour vous, vous ne prononcez pas de sentence. On a l'impression que vous dites, moi, je vous le décris, après, à vous de faire votre jugement.
Oui, voilà, oui. Ensuite, évidemment, mon jugement est contenu dans la satire elle-même. Je désapprouve la plupart de ces comportements, ou alors simplement ils m'amusent, ou alors je signale leur nouveauté. Mais oui, effectivement, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Il se peut que j'ai totalement tort et que ce que je décris, je l'ai totalement inventé. Peut-être que ça n'existe pas. C'est tout à fait possible.
D'autant que, vous précisez, nous sommes tous un peu hyènes.
Ah, je pense, oui. Moi, le premier, d'ailleurs. Donc, la hyène, c'est moi. Il y a un texte qui s'appelle comme ça, la hyène, et c'est mon portrait, en effet.
Alors, effectivement, vous faites votre autocritique et vous apportez effectivement, vous renforcez l'argument en disant que vous ne faites pas observer les hyènes, mais vous en faites partie et que, oui, quelque part, c'est parce que vous en faites partie, comme nous tous, que vous pouvez les décrire.
Oui, tout à fait, voilà. C'est exactement ça. Voilà.
Alors, je m'en vais à nouveau rassurer les auditeurs sur votre bonne volonté.
Voilà, c'est votre... ça.
Je me propose de lire un extrait de votre autocritique.
Très bien, très bien.
Il aimait les formules comme d'autres aiment les armes, avec l'air malsain des impuissants. Il se rêvait en franc-tireur et tirait sur des ombres pour le plaisir du bruit. C'était le matamor qui renverse les verres de Ricard au comptoir. Son cerveau, c'était un bistrot où ses clichés commandaient leur pastaga. Il rêvait d'être lu par ceux qu'il croyait mépriser. Est-ce que c'est exact ?
Tout à fait.
Très bien. Il attendait l'écho qui flatterait son égo en vieux chat devant sa gamelle vide. Il miaulait et tendait l'oreille. Rien. On l'ignorait. On vous a pas toujours ignoré.
Ça, c'est tragique, ça.
Mais on vous a pas
toujours... C'est comme dans tous les portraits, je pousse le bouchon le plus loin possible pour l'effet humoristique, si vous voulez. Mais il y a un fond de vrai, bien sûr, il y a un fond de vrai. Je suis celui qui cherche l'attention, quoi. Un peu comme les enfants qui montent aux arbres en disant « Regarde maman, regarde jusqu'où je suis monté, quoi. »
Oui, vous avez un peu le poil à gratter.
Oui, hein, aussi, petit... bien sûr. Oui,
voilà. Alors, je continue. Il en souffrait, dans le silence, se dévorait le foie, se repaissait de son cadavre, son haleine était celle de la mort. Là, c'est un peu fort.
Ouais, c'est très fort, ouais. Mais bon, j'ai voulu pousser le bouchon jusqu'à ce que, là, je m'imagine en train de sentir mauvais parce que je pue le cadavre. Hein.
Dans son recueil, les hyènes étaient la meilleure illustration. Il y glapissait la fin de la civilisation en voyant arriver la fin de sa phrase, de son livre, de son monde.
Oui, voilà. Bah, ça, c'est une formule ternaire, c'est très bien.
Et donc, c'est quelque chose que dans cet ouvrage, c'est, vous teniez à l'insérer dans le...
Oui, j'ai toujours voulu que dans mes livres, il y ait une part d'auto-ironie. Je ne veux pas être celui qui juge en vain les autres. Je veux être jugé aussi par moi-même. Voilà. Je trouve ça plus moral.
Oui.
Voilà.
Et alors, je voudrais vous préciser aux auditeurs que vous avez un style particulier. Je dirais, c'est d'abord vous maniez la satire. On pourrait dire, c'est de la satire de précision, hein, c'est de la satire au laser.
Ça, c'est un bon jeu de mots, la satire de précision, ça c'est très très bon, il faudrait que je le garde pour le prochain
voilà.
Volume.
Donc, nous en faisons profiter les auditeurs de paroles d'auteur. Au-delà de ça, votre style lui-même est très précis, c'est-à-dire qu'il y a une économie de mots, il y a un style assez ramassé. C'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose que vous avez travaillé ?
Oui, je suppose que tout se travaille, mais enfin, quand on écrit un roman et que l'on veut s'étendre, qu'on a 300 pages pour le faire, on a le temps de faire des phrases amples, proustiennes, si on est doué pour ça. Tandis que la satire ou le pamphlet ou l'écrit polémique, ça doit être beaucoup plus court, bref, il faut que ça soit cinglant. Et donc, ça appelle la formule brève. Donc ça donne un style beaucoup plus ramassé. Et puis, je dois dire que j'espère qu'on le sent, c'est toujours plaisant à écrire. C'est-à-dire que on doit sentir que l'auteur s'est aussi amusé à trouver la bonne formule, et il a fait le coq, et il est monté sur ses argots, il a dit regardez ce que je suis capable de faire. Voilà. Il y a un côté comme ça chez l'auteur. Hein.
Alors, je confirme, mais peut-être il y a quelque chose d'autre, je trouve. Il y a le fait que, effectivement, vous dites, je m'adresse peut-être à des gens qui vont pas du tout apprécier ou qui vont pas capter. Mais néanmoins, dans votre manière d'écrire, on sent qu'il y a des petits mots, des petites tourneurs de phrases qui sont des clins d'œil quand même.
Oui, hein? Bien sûr. Ouais.
Donc ça, c'est travaillé, ça.
Ah, bien sûr, oui.
Et ça contribue.
Tout est travaillé.
Oui, non, ça contribue, je veux dire, à donner cet aspect de texte ciselé et de texte à objectif, hein, finalement.
Oui,
de,
oui, oui. Voilà.
Alors, c'est difficile d'écrire. Alors, on n'a qu'à les qualifier de nouvelles, hein, ces chapitres. La nouvelle en elle-même, est-ce que c'est un exercice très difficile ?
Ah, je pense que c'est dans la fiction, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que autant dans une fiction comme un roman, on a le temps. On a le temps d'installer la situation, d'installer les personnages. Il n'est pas obligatoire d'être compris en 3 pages. Alors qu'en 3 pages, c'est très difficile de construire une histoire qui a un début, un milieu, une fin, qui se boucle sur elle-même. Et que l'on voit les personnages, que l'on comprenne les enjeux de la situation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Alors si c'est une nouvelle de 20 pages, ça va. Si c'est une nouvelle de 10 pages, c'est plus difficile. Et si elle fait 2 pages ou 3 pages, c'est encore plus. Ça multiplie la difficulté, je trouve.
Et est-ce que vous pensez que vous auriez pu traiter le même sujet sous forme d'un roman ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je trouve que ça appelle davantage le récit bref, le conte. Je ne m'imagine pas écrire ça comme un roman réaliste, ou alors comme un roman fantastique peut-être. Non, je ne me vois pas. Je suis trop porté vers le réalisme quand j'écris de la fiction, pour ça.
Alors tout à l'heure, je cherchais à faire des rapprochements avec La Bruyère, avec La Rochefoucauld. Si je vous propose un autre rapprochement, est-ce que vous allez être d'accord ?
Allez-y.
Est-ce que dans Bruno Lafourcade, il n'y a pas un peu de Desproges ?
On m'a souvent dit que j'écrivais des choses qui faisaient penser à Desproges. Évidemment, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Desproges. Ce serait déjà beaucoup d'arriver à Desproges, ouais, effectivement. Ouais.
Et enfin, dernière question, Bruno Lafourcade. Qu'aimeriez-vous que le lecteur, à l'issue de la lecture de votre livre, retienne?
Mais pour qui il se prend, ce type? Je vais lire son livre pour voir s'il est vraiment aussi bête qu'il en a l'air. Voilà bon. Ce que j'aimerais qu'il retienne.
Bon, mais j'espère que les auditeurs ont entendu. Il faut absolument donc que vous lisiez ce livre, parce qu'on ne peut pas laisser Bruno Lafourcade sans réponse.
Voilà.
Bien. Bruno Lafourcade, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Merci à nos auditeurs. Je vous rappelle le livre de Bruno Lafourcade, Les Hyènes, aux éditions La Mouette de Minerve, et également La littérature à balles réelles, publiée chez Jean Désert, éditeur.
Oui, alors on ne le trouve pas, mais on va le trouver, il va être réédité bientôt. En revanche, peut-être que les auditeurs sont intéressés par lire Les Mauvais Fils, qui est une correspondance entre l'écrivain Patrice Jean et moi-même. Voilà.
Donc, Les Mauvais Fils. Merci à la technique, à Coraline et à Jonathan, puisque c'était une œuvre commune. Merci à tous les auditeurs de Paroles d'auteur. Au revoir à tous et bonne lecture.